à la trahison. C'est un peu le thème. Nous l'avons entendu déjà ce matin dans ses réflexions sur Abraham et Lot. Et j'espère que vous le savez, mais à quel point la trahison fait mal. C'était le cas pour David, c'est le cas pour nous. À quel point cela est décevant. J'imagine que la plupart d'entre nous, nous avons connu d'une manière ou d'une autre une telle peine de devoir être face à la réalité que oui, même nos amis, même nos proches, ils peuvent nous laisser tomber, ils peuvent nous décevoir. Alors David, le roi David, il a connu une telle déception et il écrit ce psaume pour que nous apprenions comme lui, il devait aussi apprendre que nous apprenions à dépendre de l'Éternel, de notre Dieu. On voit cela clairement, je pense, à la fin du psaume. C'est toujours utile d'avoir le psaume sous les yeux, verset 23. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. C'est le moment où David exhorte les autres. Jusque-là, il est en train de parler lui-même au Seigneur, mais maintenant, il exhorte les autres. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Pourquoi? Car il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Voilà pourquoi il chante. C'est un psaume, c'est un chant. Il a découvert, David, pour lui-même, la vérité de ses propos. Et il aimerait donc que d'autres en bénéficient de cette découverte de sa part. Et le psaume termine en confiance, n'est-ce pas? En disant, mais moi, je me confie en toi. Et j'imagine que lorsque David traversait cette difficulté, cette déception que nous allons voir ensemble, qu'il menait David à écrire ce chant, il n'aurait jamais pu imaginer que nous serons ici à Bruxelles, 3000 ans plus tard, en train d'étudier et chanter ce même chant. Certes, lui, il avait du mal à comprendre pourquoi il devait traverser cette difficulté, bien sûr. Mais le fait, en fait, que le psaume se trouve dans la Bible et continue à fortifier le peuple de Dieu qui souffre encore aujourd'hui, je pense nous aide facilement à comprendre pourquoi, dans sa souveraineté, le Seigneur a permis une telle souffrance, une telle déception dans son cas. Alors, pour bien nous aider à suivre cet encouragement à dépendre de Dieu, parcourons dans un premier temps l'ensemble du psaume, sans trop à ce stade, si vous voulez bien, appliquer ce que nous observons à nous-mêmes directement. On viendra à cela, parce que nous prendrons ensuite un temps pour réfléchir comment ce psaume nous exhorte, nous ici présents, à dépendre de Dieu. Mais d'abord, nous voyons un survol un peu de ce psaume et de ce que David a appris. Alors, le psaume démarre avec David qui exprime son émotion par rapport à ce qu'il a dû subir. Commençons donc là, plutôt qu'avec la trahison elle-même. Donc d'abord, l'émotion dont David fait preuve. Dès le début, on voit la force par laquelle David supplie le Seigneur. Écoute ma prière, il commence. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. C'est urgent, il plaide que Dieu soit au rendez-vous de cette prière, qu'il n'ignore pas ce qui lui arrive. Prête attention, prête-moi attention, réponds-moi. Car oui, il est abattu. Il gémit, il ne connaît pas de paix dans son cœur. Lui, le croyant, non, il est troublé, le trouble l'envahit. Gère ça et là dans mon chagrin, dit une traduction. Et je m'agite. L'image, c'est quelqu'un perturbé, frustré, qui n'arrive pas à se concentrer parce qu'il est perturbé par cette trahison. L'action de ses amis est tellement présente dans son esprit, verset 4, j'entends les propos de l'ennemi, ou la voix de l'ennemi selon d'autres traductions. Ils sont contre lui, ils le pourchassent, avec colère, ils m'accusent. Ces bruyons, c'est intolérable. Et donc, oui, il ne cache pas ses émotions face à une telle opposition. Mon cœur, verset 5, se serre dans ma poitrine. Il tremble. Il craint même la mort. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Ça va mal, n'est-ce pas, pour David? Oui, très mal. Et la suite, en fait, je prends ça comme un encouragement pour moi. Quand nous voyons que même David, ce vaillant guerrier du Seigneur, courageux à beaucoup d'égards, cela lui arrive aussi de vouloir fuir la difficulté. Verset 7. Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. On le comprend. Son instinct, c'est de fuir la difficulté, de voler là où l'herbe a l'air beaucoup plus verte, ou dans son cas, il n'y a pas beaucoup d'herbe, le désert, mais là où, en tout cas, il suppose trouver la paix, sans être blessé par des autres. C'est le cri, en tout cas, de quelqu'un qui cherche à fuir ce qu'il doit vivre. Peut-être vous connaissez le morceau de musique écrit par le compositeur Mendelssohn autour de ces paroles, de vouloir fuir et prendre un vol, comme il le dit ici. C'est un air très beau, en fait, ce que Mendelssohn a écrit, calme, paisible. Cela nous encourage, par contre, de penser que c'est juste. C'est un beau désir de vouloir fuir, de vouloir ne pas être dans la difficulté. Mais le reste du psaume nous apprend que ce désir tellement compréhensif lorsque nous devons traverser des épreuves n'est pas toutefois la bonne approche pour le croyant. Car nous ne sommes pas appelés à fuir, mais à faire face à la difficulté, à confronter l'épreuve avec foi. Mais avant d'arriver donc à la foi dont David fait preuve, prenons deuxièmement un moment juste peser le mal qui cause son désarroi. C'est la deuxième partie, deuxième section du psaume à partir du verset 9 et 10. David décrit la source du mal qui cause son désarroi. Ce mal se trouve, verset 10, dans la cité. Malgré les remparts, il y a violence et dissension, comme lors de la construction du tour de Babel, dont David, je pense, fait allusion ici. Il y a une unité malsaine dans la ville contre David, contre son royaume. Et David prie que Dieu confonde leur langage, tout comme Dieu le faisait dans la Genèse, pour briser cette unité malsaine, pour confondre les plans de ceux qui s'opposent à lui. Non pas parce que les ennemis externes ont pu pénétrer la ville avec ses défenses, mais parce que c'est de l'intérieur d'où vient l'opposition. C'est là, je pense, où on découvre le cœur de sa peine au verset 13. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui m'a haï s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi qui es un homme de mon rang, toi mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Cet ennemi, donc, c'est une connaissance, un intime, un croyant, comme David était. Ils allaient ensemble au temple, ils discutaient ensemble, ils échangeaient, ils s'entendaient bien. Et vous voyez, pour David, ça pique cette trahison, parce que c'est très personnel. Il revient là-dessus un peu plus tard, dans le psaume d'ailleurs, où après coup, verset 21, il réfléchit sur les actions de ce soi-disant ami. Et qu'est-ce qu'il dit, verset 21? Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile. Pourtant, ce sont des épées nues. Cet homme, donc, sait parler, bien entendu. Une bouche pleine de douceur, plus onctueuse que la crème. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un peu de crème dans votre café ce dernier temps, ou sur des fraises, comme les Anglais aiment bien faire. Oh, c'est bon, cela. Ses propos sont plus doux que l'huile. Et la réalité, dans son cœur, il y a la guerre. Les paroles sont comme des épées nues, c'était des prêtres à frapper, à blesser. Et face à cette trahison, David réclame justice auprès de Dieu. N'est-ce pas, verset 16, que la mort les surprenne. Donc ce n'est pas une vengeance ici personnelle qu'il est en jeu, contre un seul ami qui motive cette déclaration au verset 16. Non, il parle de ce mouvement dont sûrement cette personne faisait partie, mais qui surgit contre l'autorité de David, contre l'autorité donc du roi installé par Dieu. Son propre chagrin personnel de David ne justifie pas la vengeance, mais le souci pour la gloire de Dieu, pour le règne de Dieu, pousse David à appeler Dieu à intervenir contre le mal. Il demande que Dieu se manifeste de manière publique et définitive contre une telle rébellion. Verset 16, que vivant, il descend dans le séjour des morts. Oui, c'est exactement de cette manière que Dieu avait manifesté sa colère contre ceux qui rejetaient l'autorité de Moïse, le serviteur de Dieu, dans le livre des Nombres, face à la trahison de Corée, de Dathan et d'Abiram, Dieu a agi de cette sorte pour démontrer à quel point il était contre une telle rébellion. Se liguer contre le serviteur de Dieu, loin de Dieu, n'est jamais à long terme la bonne piste à poursuivre. Et cela nous mène au troisième constat, la foi que David recommande aux autres. C'est la fin du psaume. Après avoir démontré donc d'abord son chagrin, son émotion très vive, après avoir décrit le mal qui a causé son chagrin, à partir du verset 17, il ouvre une fenêtre à sa propre foi. À lui, il ne se trouve pas loin de l'action dans le désert où tout est tranquille. Non, il est toujours dans le combat. Car il se répand, verset 18, en plainte et en gémissement. Ça nous rappelle le fait qu'il gémissait au verset 3. Mais que fait-il au milieu du combat? Il prie. Moi, verset 17, j'en appelle à Dieu. Le soir, le matin, à midi, cela témoigne, il me semble, d'une certaine discipline de cet homme dans la prière, n'est-ce pas? Un homme qui a le réflexe de prier régulièrement. Un homme qui sait par expérience que oui, l'Éternel, le Seigneur, est celui qui sauve, qui prend soin de son oint. Le roi désigné par Dieu, qui délivre son oint de ses ennemis. Depuis toujours, verset 20, ce Dieu, il règne. Et donc, c'est lui qui humiliera ses ennemis. David, il savait cela. Et c'est ainsi qu'au lieu de se faire justice, il se remet à Dieu, à sa justice, à lui. Il exerce donc sa foi en Dieu. Ce n'est pas une foi aveugle, ici, de la part de David. Une foi naïve, une foi faible. Non, c'est une foi mûre, réfléchie, forte. Et c'est une telle foi qu'il nous recommande. Verset 23, « Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Oui, Dieu, David continue, il fera descendre les ennemis de son peuple dans le puits de la destruction. Cela arrivera, ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leur jour. Mais moi, il dit, je me confie en toi. Voici notre survol alors de l'ensemble de ce psaume, qui nous interpelle à exercer nous-mêmes une foi similaire lorsqu'il s'agit de nos propres fardeaux, nos propres déceptions. Et c'est vers cela que nous tournons donc maintenant pour la deuxième partie. Pour ce faire, essayons d'abord de bien tracer la ligne qu'il y a entre David d'une part et nous, ici présents, d'autre part. Une ligne qui passe par Jésus-Christ. Quand Jésus, le fils de David, par excellence, a aussi des choses à nous apprendre. Mais avant d'arriver à Jésus, là on est toujours ici avec David, pour ceux qui ont lu les psaumes récemment, peut-être dans le plan de lecture, on a essayé de suivre les psaumes ce dernier temps, peut-être un aspect de ce psaume 55 vous a frappé en venant rien que quatre psaumes après le psaume 51. Le premier de cette série de psaumes de David qui apparaissent à la fin du deuxième livre des psaumes, c'est le psaume 51. Car là, David, ou ici, au psaume 55, David parle de manière très touchante d'une trahison de la part d'un proche, d'un homme de son rang. Mais au psaume 51, nous entendons parler là d'un David qui était lui, celui qui a trahi. Oui, un ami, un intime. Uri, le mari de Bathsheba, était un serviteur fidèle du roi. Il est compté, Uri, d'ailleurs, selon 2 Samuel chapitre 23, verset 39, c'est le dernier homme qui est mentionné, il est compté parmi les vaillants hommes de David, dans le cercle d'intime de David. Et qu'avait-il fait David à ce proche? Il l'a trompé en couchant avec sa femme. Il a arrangé la mort d'Uri par désir ensuite de cacher sa faute. Donc oui, David, le roi désigné par Dieu, il a connu la trahison, on le voit ici dans le psaume 55, mais on maintient aussi en tête la faiblesse de David. La triste réalité que David aussi est capable de commettre une telle trahison lui-même. Et cela, je pense, nous donne soif du roi davidique par excellence. Le roi qui régnera parfaitement, éternellement. Ce roi, Jésus, le Christ, loin de Dieu, le fils de David, fils de Dieu, lui aussi, bien entendu, il a connu la trahison. Celui qui l'a trahi, Judas, faisait partie des 12 disciples, les intimes de Jésus, ceux qui partageaient leur pain avec lui. Et Jésus, au lieu de faire preuve de vengeance, que faisait-il? Il se remettait à son Père lors de la crucifixion. Lui aussi, il gémissait dans le jardin de Gethsémané, juste avant sa mort, conscient du poids de prendre sur lui, en mourant sur la croix, la colère de Dieu contre tout péché, contre notre péché. Qu'est-ce qu'il priait toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et lui, au lieu de connaître la délivrance tout de suite de la part de Dieu, il lui-même a d'abord connu la mort. Lui, mort à 33 ans environ, qui n'a pas, il nous semble, atteint la moitié de ses jours. C'est prévu plutôt pour les ennemis, cela, n'est-ce pas? Mais bien évidemment, l'Éternel a bien pris soin de lui. Le troisième jour après sa mort, pour nos fautes sur la croix, Dieu l'a délivré. Il l'a ressuscité à une vie éternelle, à son règne éternel. Et grâce à la foi de Jésus, la fidélité de Jésus-Christ à son Père, grâce aussi à sa résurrection d'entre les morts, nous les pécheurs, vous et moi, nous pouvons connaître la délivrance. Une délivrance définitive qui permet notre place dans ce royaume éternel. Les croyants en Christ, donc se confient en Christ, dans ses promesses, nous l'avons chanté. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui est digne de notre confiance. Peu importe la difficulté, peu importe la peine personnelle que nous devons porter dans cette vie, même en tant que croyants. Et des peines, il y en a. Peines qui ont pour source, oui, ceux et celles qui portent aussi le nom de Jésus-Christ. C'est dur cela, n'est-ce pas? Nous nous attendons à de l'opposition en dehors de l'Église, de manière plus naturelle, il me semble. Mais au sein de la famille de Dieu, la famille de la foi, au sein de l'Église de Jésus-Christ, nous avons des attentes plus élevées pour un comportement digne de Jésus-Christ. Et donc, pour une attaque frontale de l'extérieur, nous pouvons plus facilement rassembler les troupes autour de nous, faire un plan d'action, demander de la prière, recevoir de l'aide des uns et des autres. Mais pour ceux qui connaissent de l'opposition par d'autres croyants de l'intérieur, d'autres membres de l'Église, même d'autres membres de la même famille chrétienne, il y a souvent plus d'obstacles pour en parler, pour partager cette peine. Nous pouvons vite être accusés, nous, de déloyauté, de commérage, d'un manque d'amour ou de compréhension envers les faiblesses de l'autre, si nous en parlons. Et c'est ainsi que ceux qui commettent de l'abus peuvent continuer à se faire, car les victimes de ce genre de trahison sont très réticentes à en parler, à juste titre. Sans devoir en fait y réfléchir longuement, j'ai pensé à plusieurs cas de ce genre d'abus dans le milieu chrétien dont j'ai entendu parler cette année. Un pasteur avec un contrôle trop autoritaire sur certains de ses fidèles, qui exigeait une obéissance qui allait au-delà de ce que la Bible autorise, et cela pendant des années envers plusieurs personnes. Cela a laissé des séquelles très conséquente chez chacune de ces personnes. Un mari chrétien qui prive depuis le début du mariage son épouse de ses droits conjugaux. Un autre qui empêche que sa femme bénéficie des moyens nécessaires pour la vie de tous les jours. Smartphone, carte bancaire, voiture et ainsi de suite. Un autre homme qui insulte sa femme, qui fait de son mieux pour qu'elle ne fréquente plus l'Église de Jésus-Christ. Un père qui est fâché avec son fils, car il a voulu obéir son fils à Dieu plutôt qu'à son père, dans un cas précis. Et le père l'a lâché tout de suite. Je pense aussi à des responsables d'une Église qui cherchent à blâmer injustement quelqu'un afin de blanchir leur propre réputation. C'est terriblement isolant de se retrouver ainsi seul par rapport à cet intime ou ce proche. Seul dans un couple, seul dans une famille chrétienne, seul dans une église où tout le monde semble suivre ce que les autres sont en train de dire. Bien sûr, nous voulons dire à de telles personnes que c'est sage et c'est important de pouvoir en parler, si possible, à quelqu'un de confiance. Mais au-dessous de tout, il faut savoir que oui, le Seigneur lui-même, plein de grâce et de miséricorde, qui aura le dernier mot dans chacun de ces cas. qui en Christ nous délivre, oui, de notre péché, qui fait de nous par sa grâce membres de sa famille. Lui seul est digne de notre confiance. Tout comme David pouvait être l'objet d'une trahison et également être la source d'une trahison, je pense aussi que nous pouvons par extension aussi appliquer ce principe de déception au sein de la famille de Dieu, non seulement pour des grands torts que nous venons de mentionner, mais aussi dans un sens, pour d'autres torts plus mineurs, mais tout de même qui blessent. Oui, c'est vrai, l'Esprit de Dieu demeure en ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Et oui, l'Esprit de Dieu œuvre en nous, merci Seigneur, de manière à ce que le fruit de l'Esprit soit manifeste dans notre vie. Mais quand même, comme David, nous ne sommes pas encore dans la nouvelle création, dans le royaume pleinement accompli. Et nous continuons, parfois nous-mêmes, à être la source des torts, parfois de devoir subir des torts de la part des autres. Et j'imagine, vous connaissez vous aussi cette déception au sein de la famille de Dieu. De nouveau, je n'ai pas pu réfléchir longuement pour trouver ces quelques exemples. Une remarque blessante de quelqu'un dans l'église envers un couple qui n'a pas d'enfant. Oh, ça ira, vous savez, le Seigneur répond. Il y a toujours l'adoption. Est-ce qu'on sait à quel point cela blesse celui qui lutte dans ce domaine? Ou peut-être envers une personne célibataire qui lutte avec le célibat, mais qui veut pleinement vivre le célibat tant qu'il s'y trouve. Oh, je suis sûr que Dieu a quelqu'un pour toi, tu sais. Non, c'est pas une promesse de Dieu. Et donc de dire ça le confirme dans le fait qu'il n'est pas accompli avant d'être marié. Quel mensonge! Quel mensonge! Et ça blesse parce que la personne ressent plus sa solitude. Quelqu'un, un homme un peu machiste, qui raconte une blague contre les femmes lors d'un rassemblement chrétien et ainsi dénigre le ministère des femmes au sein de l'Église, c'est blessant d'agir de la sorte. Peut-être un ami chrétien, un pasteur chrétien, qui promet beaucoup de choses, mais qui ensuite ne tient pas parole dans l'une ou l'autre de ces choses. La découverte que quelqu'un que nous estimons, même au sein de notre Église, ne respecte pas les consignes à propos de COVID de manière aussi rigoureuse que vous. C'est aussi frustrant cela, n'est-ce pas? On croyait qu'on devait tous obéir aux mêmes règles. Et toi, tu fais ça différemment? Mais écoute, pourquoi tu bénéficies et moi, non? On ressent aussi un peu de trahison dans ce cas de figure. Quelqu'un qui réagit de manière sec ou dure, par message, par mail, par WhatsApp ou autre. Personne qui met des propos cassantes sur Twitter, Instagram ou autre. Personne qui a du mal à prendre tes suggestions à toi au sérieux, mais lorsque la personne écoute quelqu'un d'autre qui suggère exactement la même chose, il écoute attentivement. Ça blesse aussi, parce que ça veut dire qu'il ne te prend pas au sérieux. Responsable d'église qui demande des avis de la part de l'assemblée et ensuite sont fâchés avec vous lorsque vous offrez un avis avec lequel ils ne sont pas d'accord. On ouvre et puis on casse. C'est injuste dans tous ces cas. Il s'agit des chrétiens qui nous saluent, qui partagent le même pain avec nous. Pour le moment, on ne fait pas encore le repas du Seigneur, mais en principe, nous partageons tous le même pain. Nous confessons tous nos péchés. Nous nous engageons tous à suivre le Seigneur. Et puis, ils se comportent comme ça. C'est dur de supporter cela. Ça donne envie de dénoncer de telles personnes, n'est-ce pas? C'est dur et pourtant c'est nécessaire de pouvoir y faire face. Non pas, chers amis, avec stoïcisme. C'est pas grave, je suis fort. Non, avec foi, avec de la prière disciplinée, matin, midi, soir, dit David ici. 1 Pierre chapitre 5 verset 7, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, nous avons une confiance en Dieu parce que nous avons une connaissance de Dieu. Il est le Dieu qui prend soin de nous, qui nous délivre en Jésus-Christ. En Corinthiens 10, verset 13, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et qu'arrive-t-il à ceux qui s'opposent jusqu'au bout le règne de Jésus-Christ? Qu'avait-il dit Jésus à propos de Judas? Malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. Loin de lui, de Judas, les joies éternelles. Non, chez lui, il n'y a rien que regret, grincement de dents. Jugement éternel. Lui, il n'a pas atteint même la moitié de ses jours. À la lumière de l'éternité, nos jours ici-bas sont très très courts. Donc ne perdons pas courage. Même dans les grandes trahisons, même dans les petites trahisons qui nous blessent. Dieu a le contrôle de tout. Il connaît lui-même de l'intérieur la déception. La trahison, nous sommes à lui, il prend soin de nous. Non pas forcément en nous enlevant de l'épreuve dans laquelle on se trouve, là où l'herbe a l'air plus verte, mais en nous accompagnant, en nous donnant sa présence, la présence de son esprit, de sa paix. Nous allons terminer et je vais vous lire deux versets de Philippiens chapitre 4 et ensuite nous prierons ensemble. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous te prions que cette prière soit la nôtre, que nous puissions être un peuple qui, malgré les épreuves, que nous te présentons ces épreuves et que nous soyons conscients à quel point tu es digne de notre confiance. Que la paix qui vient de toi, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, que cette paix nous garde, garde notre cœur et nos pensées. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.